La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle semaine, nouveau sujet dans la compagnie des auteurs. Nous parlons jusqu'à jeudi de l'écrivain Albert Cohen. Il prétendait ne pas être un écrivain professionnel et la plus grande partie de son œuvre consiste en l'exploration d'un seul et même univers, celui qui entoure son personnage de Solal. Mais cet univers, il l'a quadrillé au plus près et y a plongé jusqu'au bout de son obsession, comme nous allons tenter de le voir jusqu'à jeudi. Jeudi, où nous nous pencherons sur ce qui n'est pas Solal, c'est-à-dire sur les écrits autobiographiques de Cohen et en particulier le livre de ma mère, et au Vous Frères Humains, ce sera avec Anne-Marie Jaton. La veille, mercredi, nous aurons passé l'émission en compagnie d'Ariane, des deux, mais de Solal lui-même pour évoquer son œuvre majeure, Belle du Seigneur. Ce sera grâce à Alain Schaffner. Enfin demain, Solal toujours, mais à l'exception cette fois de Belle du Seigneur, nous serons avec Philippe Zard. Et aujourd'hui ?
J'ai l'œil méchant, mais le cœur bon. Et l'œil est méchant à cause d'un assez grand nombre d'expériences décevantes, Cynisme, scepticisme, ulcération, blessure, tout ça c'est vrai. Mais j'aime. Tu ne peux pas savoir à quel point j'aime. L'enfant est resté vivant chez moi, mais je suis en même temps devenu, malheureusement, un crocodile aussi, en même temps. Mais c'est un crocodile qui a un cœur d'enfant.
Albert Cohen au micro de Françoise Esteb et Jean Couturier en 1976. Aujourd'hui donc, pour raconter la vie d'Albert Cohen, nous sommes avec Maxime Decoux, maître de conférence à l'Université de Lille et auteur du livre Albert Cohen, les fictions de la judéité, publié en 2011 aux éditions Classique Garnier. Bonjour Maxime Decoux.
Bonjour.
Selon vous, Albert Cohen penchait davantage du côté du crocodile ou du côté du cœur d'enfant?
Question effectivement délicate, donc comme il le dit,
un peu tout le sujet de notre semaine.
Tout à fait, un cœur d'enfant dans un crocodile, parce qu'il est vrai que l'œuvre se partage vraiment entre un regard relativement impitoyable sur le monde, sur la sauvagerie de la société, sur l'animalité, en particulier dans les paroles de Solal, et puis en même temps une grande tendresse, un grand espoir dans l'homme, l'homme qui, c'est l'espoir de Solal, c'est l'espoir de Cohen aussi dans ses autobiographies, pourrait devenir humain et quitter les lois de la nature.
Le crocodile, c'est peut-être celui aussi qui verse des larmes de crocodile, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir un petit peu de théâtre chez Albert Cohen.
Oui, tout à fait. C'est vrai que on a une œuvre qui est une œuvre grandiloquente, qui ne recule devant rien, avec donc beaucoup de lyrisme, beaucoup d'excès dans le comique, beaucoup d'excès même parfois dans le dans la vulgarité, et beaucoup de théâtre et de mise en scène, principalement chez le personnage de Solal, qui se donne régulièrement en spectacle devant les femmes, devant les occidentaux, qui est toujours en représentation en quelque sorte. Et d'ailleurs, Cohen lui-même, devant les journalistes, s'est régulièrement mis en scène.
Avec un peu de complaisance parfois.
Certainement, enfin en tout cas il s'est créé un personnage, on le voit régulièrement apparaître dans une sorte de grande robe de chambre qui est aussi celle que porte parfois Solal, avec une tendance à répéter toujours les mêmes épisodes, les mêmes choses, à ressasser, comme dans son œuvre hein, d'ailleurs, à dire qu'il n'est, comme vous l'aviez dit, pas un écrivain professionnel, que son écriture vient du cœur uniquement, qu'elle est ressentie et non pas réfléchie, en quelque sorte. Et Et en même temps jouant finalement au séducteur, disant à la fois qu'il n'est pas Solal, mais que Solal lui ressemble. Alors finalement, l'un de ses arguments, c'est Solal n'est, je ne suis pas Solal, Solal n'a jamais écrit de livre. Mais on sent que derrière l'argument, il laisse la porte ouverte aux associations avec son personnage.
Alors les blessures qui ont fait de lui un crocodile, elles commencent tout de même très tôt et puis elles sont réelles, ces blessures. Les premières, c'est peut-être la relation entre ces deux parents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agissait?
Oui, alors, ce que Cohen met en scène et ce qu'il raconte, alors en particulier dans ses trois textes autobiographiques, Le livre de ma mère en 54, ou Vous frères humains en 72 et Carnet 1978 en 1978, c'est effectivement une relation très exclusive avec sa mère, Louise Cohen, une mère qui est vénérée, adorée, une mère qui est déterminante dans sa pensée, dans le sens où il lui attribue tous les principes éthiques dont il va se réclamer, en particulier la manière d'interpréter très singulière, d'interpréter le judaïsme et les commandements de Moïse.
C'est-à-dire très singulière.
Alors, c'est-à-dire que notamment, enfin, on a ce passage dans le livre de ma mère où Louise Cohen explique à son fils, elle lui dit globalement, bon, Moïse est monté sur la montagne, il a inventé les 10 commandements. Et puis il est pour rendre les Juifs humains, pour les sortir de la loi de la nature. Et puis il est redescendu. Et puis vu que les Juifs veulent toujours ce qui est de plus cher, il leur a dit voilà, c'est Dieu qui m'a transmis ça. Mais elle lui dit bien que c'est une invention de Moïse. Donc c'est une relation finalement à un judaïsme assez libre qui en garde principalement l'esprit, la volonté éthique et beaucoup moins les dogmes. Le culte et la relation à Dieu aussi, puisque c'est notamment manifeste dans Carnet 1978, Cohen recherche la foi, il n'arrive pas à croire, il est persuadé qu'il n'y a pas de Dieu.
Donc il n'a pas de pratique.
Il n'y a pas de pratique du judaïsme. D'ailleurs, les juifs dans les romans sont très peu juifs, dans le sens où les infractions au dogme sont très régulières. Mangeclou, l'un des valeureux, dit par exemple, c'est une phrase assez savoureuse, que le jambon, c'est la partie juive du porc. Donc les infractions sont très nombreuses et il n'y a que très peu de juifs de stricte observance. Donc c'est vraiment cette mère est déterminante là-dedans, elle est d'autant plus, et elle est déterminante dans la conception aussi du sentiment amoureux. Elle est transformée en une sorte de Vierge Marie dans le livre de ma mère, qui sacrifie tout pour son fils, qui l'aime au-delà de tout. Et le personnage de Solal, qui lui a une mère mais qui disparaît très vite, recherche dans la passion amoureuse cette relation singulière qui est celle de la maternité, de l'amour maternel.
De la fusion aussi.
De la fusion et de l'amour désintéressé.
Et alors pour revenir du coup au couple parental, là où il peut y avoir une première blessure chez le petit Albert Cohen, mais qui va rester toute sa vie, c'est que son père ne respecte pas suffisamment cette mère qui est une idole.
Voilà, et le père en fait est assez peu présent dans les autobiographies. Il est même régulièrement appelé le mari de sa mère. Alors il y a une ambiguïté dans le sens où donc ce père, on sent une distance, voire une rivalité avec lui, un sentiment qui est conflictuel. Mais en même temps, dans l'autobiographie, Cohen explique que ses parents ne se sont pas mariés par amour, mais que l'amour est né dans le mariage. Donc l'institution quand même du mariage est sauvée dans un certain sens, mais le père restera à la marge et on va retrouver une figure paternelle dans la fiction, c'est le père de Solal, qui est le rabbin Gamaliel. Mais il a beaucoup plus d'importance que la mère de Solal, paradoxalement, contrairement à l'importance qu'il y a entre la mère et le père d'Albert Cohen. Mais ce père va transmettre un judaïsme à son fils, qui est un judaïsme que celui-ci refuse en quelque sorte. Il va défier ce père, donc il est assez présent dans Solal. Et puis après, dans Mangeclou, il disparaît. Et puis il ne reviendra plus. Et donc c'est l'éviction complète de la figure paternelle, alors que la quête de la figure maternelle va se poursuivre dans Belle du Seigneur à travers différents relais de cette figure. Et à la place du père, par contre, on a la figure du grand-père paternel.
Qui, pour le coup, lui transmet la judaïté.
Voilà, exactement. Donc, Cohen rapporte hein, ce souvenir où il est retourné à Corfou, donc son île natale, en Grèce. Bon, qu'il a quitté, c'était alors sous domination turque, il a la nationalité turque. Et il y est retourné, il a rencontré ce grand-père, et ce grand-père qui était rabbin. Et c'est là qu'il a effectivement découvert un judaïsme extrêmement positif pour lui, qu'il a ramené à des origines, quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et en fait, c'est en sautant une génération qu'il découvre ce judaïsme-là. Donc la mère d'un côté et le grand-père de l'autre.
On reviendra là-dessus si on a le temps, parce que c'est important pour le nom précisément de Albert Cohen. Alors, parmi les blessures, il y a aussi le fait qu'en effet, il est né à Corfou, à une époque où il y a des pogroms anti-juifs, ce qui conduit finalement la famille, alors que Albert Cohen est petit enfant encore, à émigrer. Et donc, ils choisissent la France, Maxime Decoux.
Oui, ils arrivent donc à Marseille. Albert Cohen a 5 ans. Ses parents ne parlent pas français. Ils parlaient un dialecte qui est du judéo-vénitien. Donc, sa mère conservera toute sa vie un accent assez fort. Et lui aussi a une sorte d'accent, en tout cas, je ne sais pas s'il le cultive ou non, quand on l'entend parler dans les entretiens ou quand il lit, il aime beaucoup cet accent qui rappelle ses origines orientales.
Et une fierté de l'origine, quand
tout
même.
Tout à fait, oui, il y a une réappropriation de cette origine qui se fait dans le nom aussi, quand on en reparlera. Et effectivement, donc dans le livre de ma mère, on a quelques éléments sur la vie du jeune Cohen en France, par rapport à ses camarades, notamment, qui se moquaient de la manière dont il parlait français. Et il y a un passage assez ironique dans le livre de ma mère, où il dit, leur nom prestigieux, donc en parlant de ses camarades, me revient tout à coup, il cite leur nom, que sont-ils devenus, etc. En soulignant que, bon, ben voilà, lui, le petit immigré qui ne parlait pas français, a écrit des livres, est devenu écrivain, alors que ceux qui railler son accent ont totalement disparu.
Alors, ils arrivent à Marseille en 1900. Donc, il est né, lui, 5 ans plus tôt, exactement, hein, 1895. Le père ouvre un commerce, il vend des œufs, il vend de l'huile. Et là, alors, il va à l'école, il va dans une école qui est une école catholique, Maxime Decoux.
Oui, Cohen a donné quelques détails là-dessus, mais pas tant que ça. Il y a quelques mentions, effectivement, dans notamment dans le livre de ma mère, un petit peu dans Vous frères humains, sur cette école, avec la découverte, effectivement, d'une autre culture, d'une autre religion. Bon, ce qui ne fait pas de lui, enfin, il n'y a pas de désir d'assimilation qui va passer par une volonté de se convertir ou ce genre de choses, comme on pourra retrouver en revanche chez le personnage de Solal, dans Solal en particulier. Donc passage qui lui à l'école où il découvre surtout la langue française et la littérature française, et il raconte hein, à plusieurs reprises, ça c'est un épisode qui est assez récurrent, comment petit enfant il avait organisé ce qu'il appelle un hôtel à la France dans sa chambre dédié aux grandes figures, aux grands écrivains dont Victor Hugo, et qu'il allait finalement en fait sa véritable dévotion, elle n'était pas, enfin, sa religion, en quelque sorte, petit enfant, elle se fait à destination de cette langue française dont il dit, hein, qu'elle est aussi sa patrie, en fait, sa langue d'adoption. Et on aura toujours ce sentiment chez Solal de vouloir être pleinement juif, pleinement français, en même temps d'essayer de conjuguer ces deux appartenances.
Est-ce que c'est à cette époque-là qu'il rencontre Marcel Pagnol ?
Oui, alors c'est effectivement de ses années à Marseille qu'il a rencontré Marcel Pagnol, qui est l'un de ses grands amis, avec qui il va garder, alors c'est des contacts surtout épistolaires ensuite, il va garder effectivement beaucoup d'admiration, beaucoup d'amitié l'un pour l'autre, et il est vrai que c'est l'un des rares écrivains, Marcel Pagnol, qui évoque lui-même Albert Cohen. Albert Cohen qui reste quand même une figure assez marginale dans le champ littéraire. Très peu d'écrivains se réfèrent à son œuvre. Ce qui vient aussi du fait, mais on en reparlera peut-être plus tard, du très fort retard de la publication de Belle du Seigneur, qui ne paraît qu'en 1968, alors que Cohen commence en fait à écrire, à penser et à rédiger Belle du Seigneur dès 1930. Et il va lui falloir quand même, bon, il y a la guerre au milieu, il y a beaucoup de choses qui font qu'il ne l'écrit pas, mais c'est un grand chantier, et très certainement, si Belle du Seigneur avait paru en 1938, sa réception et sa postérité auraient été tout à fait différentes, dans le sens où c'est une œuvre extrêmement qui reprend beaucoup de procédés, notamment le monologue intérieur, les discours indirects libres, etc.
Ça, je pense qu'on en parlera.
Très influencé par Joyce,
et qui au mercredi.
Fait, c'était vraiment une œuvre majeure du début du XXe siècle, mais qui paraît au moment en fait où le nouveau roman a déjà triomphé.
Déjà tout balayé. On en parlera plutôt, je pense, mercredi, puisqu'on fait une émission spécialement sur Belle du Seigneur. Il y a aussi, évidemment, l'épisode traumatisant le plus célèbre qu'il faut rappeler ici. C'est l'épisode du camelot. Il l'a raconté dans son livre autobiographique « Oh vous, frères humains ». Je vous propose de l'écouter tout de suite.
En ce 16e jour du mois d'août, à 3h05 de l'après-midi, sortant du lycée où j'étais allé suivre un cours de vacances pour cancre en arithmétique, je vis un attroupement. À l'affût de m'intéresser et de jouir de la vie, de ma vie qui venait de commencer, je m'approchai. C'était un camelot qui, devant sa table pliante, démontrait avec feu les mérites de son détacheur universel. Fort animé et me forgeant déjà mille félicités de connaissances nouvelles, je me faufilai au premier rang pour mieux entendre et admirer le blond camelot aux fines moustaches. J'étais très fort en admiration en ce temps de mon enfance. Mais alors, rencontrant mon sourire tendre de 10 ans, sourire d'amour, le camelot s'arrêta de discourir et de frotter, scruta silencieusement mon visage, sourit à son tour, et j'eus peur. Son sourire venait de découvrir 2 longues canines. Et un paquet de sang massivement afflua sous ma poitrine, à hauteur du sternum, avec le choc d'un coup contre ma gorge. Sous son regard bleu pâle et son index tendu qui me désignait, je transpirai, et de panique, je humectai mes lèvres.
« Toi, tu es un youpin, hein ? Tu es un sale youpin, hein ? Je vois ça à ta gueule, tu manges pas de cochons, hein ? Vu que les cochons se mangent pas entre eux. Tu es avare, hein ? Je vois ça à ta gueule, tu bouffes les louis d'or, hein ? Tu aimes mieux ça que les bonbons, hein ? Tu es encore un Français à la manque, hein ? Je vois ça à ta gueule, tu es un sale juif, hein ? Un sale juif, hein ? Ton père est de la finance internationale, hein ? Tu viens manger le pain des Français, hein ? Messieurs, dames, je vous présente un copain à Dreyfus, un petit youtre pur sang, garanti de la confrérie du sécateur, raccourci où il faut, je les reconnais du premier coup d'œil. J'ai l'œil américain, moi. Eh ben nous, on n'aime pas les juifs par ici, c'est une sale race. C'est tous des espions vendus à l'Allemagne. Vous voyez Dreyfus, c'est tous des traîtres, c'est tous des salauds. Ils sont mauvais comme la gale, des sangsues du pauvre monde. Ça roule sur l'or et ça fume des gros cigares pendant que nous, on se met la ceinture. Pas vrai, monsieur dame? Tu peux filer, on t'a assez vu. T'es pas chez toi ici, c'est pas ton pays ici. T'as rien à faire chez nous, allez file.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Maxime Decoux, ce moment de la vie d'Albert Cohen qu'on vient d'entendre, c'est un élément fondateur, c'est cette scène du camelot qu'il va re-raconter souvent. Qu'est-ce que ça change dans sa vie et qu'est-ce que ça va produire sur l'œuvre ?
Alors c'est une scène dont, d'après sa fille Myriam, Albert Cohen n'avait en fait pas parlé avant de l'écrire. Et il en écrit une première version qui est publiée pendant la guerre dans la France Libre sous forme donc sous forme de plusieurs textes qui paraissent les uns à la suite
des
autres.
Le journal de Raymond Aron. Hein.
Voilà, tout à fait. Et donc qui est intitulé « Jour de mes 10 ans ». Et puis ensuite, en 1972, il reprend ce texte pour en faire « Au vous, frères humains ». Donc le changement de titre aussi est assez intéressant.
Pour quelle raison ?
Ben parce que là, donc dans le premier, on a vraiment l'accent sur le fait que c'est le jour de l'anniversaire, hein, ce qui bon est conservé dans le texte publié ensuite. Donc l'idée que c'est le jour de l'anniversaire est quelque chose d'important dans le sens où c'est un point originel, c'est comme une deuxième naissance, puisqu'en fait, l'enfant découvre qu'il est juif. Hein, il n'avait pas conscience d'être juif, il ne sait pas ce que c'est, et il le découvre dans une scène de haine et de stigmatisation publique. Donc il y a une sorte de nouvelle naissance. Et puis, en l'appelant « Ô vous, frères humains », on a vraiment l'accent qui est porté sur le destinataire, le message de tolérance et la manière dont cette scène est finalement offerte aussi. C'est une scène de haine offerte au lecteur pour que, justement, il réfléchisse à ces situations. Bon, mais l'actualité la plus récente nous montre que le message d'Albert Cohen est toujours d'actualité. Et donc en fait dans la scène qu'on a entendue, il y a deux choses. D'abord toute la phase avant que le camelot prenne la parole, la fascination de l'enfant pour cet homme, son
désir. Parce que le camelot représente celui qui parle et celui qui parle mieux que les autres d'une certaine manière pour un enfant.
Celui qui effectivement est entouré d'une foule, maîtrise une sorte de rhétorique. Et l'enfant s'avance vraiment avec un désir de communication, d'amour, ce qui permet donc vraiment de renforcer le contraste avec les paroles qui vont arriver ensuite. Alors bien entendu, dans le portrait, on a déjà des éléments qui laissent présager certaines choses, notamment donc le détacheur universel qu'il est en train de vendre, hein, comme s'il était déjà prêt à nettoyer la tache que constitue le petit juif dans la foule des Français. Et il y a ces canines aussi hein, qui signalent cette animalité que Cohen va toujours dénoncer chez ceux qui haïssent les autres. Et puis ensuite, on a tout ce flux d'insultes où l'enfant est en quelque sorte baptisé comme juif, comme youpin, comme youtre, avec toute cette série de clichés antisémites. Hein, on a véritablement un répertoire de la rhétorique antisémite, la manière dont l'antisémite produit une rhétorique assertive, qui désigne l'autre, qui cherche l'assentiment de la foule dans un ensemble de clichés, alors la finance, etc. Alors que même que le début du texte hein, nous peint l'enfant vivant dans une situation matérielle difficile avec ses parents. Donc on voit tout de suite le contraste, bien entendu, entre la réalité et le cliché. Et c'est vraiment un élément déterminant ensuite. L'enfant erre dans les rues de Marseille, ne veut pas rentrer chez lui. Et donc tout le texte, en fait, hein, est basé sur cet épisode et cette errance où il se transforme progressivement en une sorte de Christ miniature. Et Solal le fera à plusieurs reprises dans les romans, essayant de s'approprier un message d'amour et de tolérance et d'amour du prochain qui est aussi le message chrétien.
Alors, plus tard dans sa vie, Albert Cohen va donc changer son nom, on l'évoquait au début de cette émission en rajoutant le H, parce qu'au départ, son nom, puisque à Corfou son nom s'orthographie C-O-E-N, sans H, et là il rajoute le H, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, il rajoute cette lettre au moment de sa naturalisation en Suisse.
Oui, parce qu'il n'est pas français.
Il n'est pas français, tout à fait. Il n'a jamais eu la nationalité française, même s'il a vécu en France. Ensuite, il part à Genève faire ses études de droit. Il est naturalisé suisse et il décide d'ajouter ce H. Alors, qui est un renoncement partiel à l'orientalité de ce nom, mais en même temps qui permet de restaurer, de réaffirmer le caractère juif. C'est une graphie Cohen qui évoque évidemment un nom d'origine juive, et puis surtout qui rappelle l'étymologie du mot Cohen. Ce sont les prêtres, les Cohen Gadol, qui sont les prêtres descendants de Aaron, qui ont donc
le frère de Moïse.
Voilà, le frère de Moïse, cette filiation extrêmement importante pour Cohen, que rappelle sa mère dans les différents textes autobiographiques. La figure d'Aaron apparaît régulièrement associée aussi à Solal. Et donc c'est un lien direct qu'il recrée avec le judaïsme et la Bible.
Moi je crois en la religion juive. Il y a une chose, à l'exception, j'avais dit ça à ce rabbin qui m'a interviewé, j'ai dit, il n'y a qu'une chose qui me gêne, c'est l'existence de Dieu là-dedans. Mais autrement, une religion qui a 613 ordres de ne pas faire certaines choses, ça c'est très important. Parce que on peut prétendre, on peut dire, mais le christianisme c'est beaucoup plus beau, parce qu'il faut aimer. Seulement, cet amour du prochain, c'est quelque chose de si léger. Aimer, mais est-ce que celui qui aime tellement son prochain est capable de donner la moitié de ce qu'il a? Pourtant, c'est ça l'amour, donner au moins la moitié. Tandis que dans la religion juive, on se borne à dire que celui qui a doit donner la dixième partie de son revenu. Parce que ça, c'est net, c'est vrai. C'est pas seulement des sourires, des messages dentaires, n'est-ce pas? Je t'aime. Et après, je garde toutes mes actions en banque. Je t'aime, mais tout mon avoir en banque, je garde.
France Culture, la compagnie des auteurs. Nous sommes avec vous, Maxime Decoux, pour continuer de parler d'Albert Cohen. Sur cette archive qu'on vient d'entendre, peut-être une réaction, et puis dire aussi que l'identité juive, ça va être vraiment au cœur de toute son œuvre, et aussi de son premier livre, qui est un recueil de poèmes qui s'appelle précisément « Paroles juives ».
Oui, alors dans l'archive, ce qu'on entend bien, c'est ce que Cohen répète beaucoup, et qu'il fait dire à Solal, à Mangeclou, à ses différents personnages, c'est-à-dire que régulièrement, l'amour du prochain chez les chrétiens est quelque chose qui n'est pas véritablement ressenti et qui permet de se sentir supérieur en effectuant une sorte d'acte de charité pour se distinguer justement de l'autre. Alors que l'amour véritable, l'amour que cherche Solal, que, bon, avec certaines ambiguïtés, ce serait l'amour absolu, l'amour de l'autre sans contrepartie, sur le modèle de l'amour maternel. Et Cohen ici prend vraiment les commandements juifs comme quelque chose de, comme un commandement intégral d'amour qui irait beaucoup plus loin. Ensuite, effectivement, donc son premier recueil de poèmes, Paroles juives, en 1921, se fait vraiment autour de cette question de la judéité, mais c'est un recueil qui est assez critique contre le christianisme, contre le Christ qui est jugé, ce qui ne sera pas le cas ensuite, dans le sens où le Christ est un modèle important pour Solal, qui s'y identifie très souvent. Et c'est à cette époque-là, en fait, quand Cohen publie Paroles juives, qu'il commence ses premiers engagements politiques. Il a rencontré André Spire en 1918, une rencontre très importante pour lui, puisque c'est vraiment un poète qui va s'engager politiquement, intellectuellement, par son écriture poétique, qui publie un recueil qui s'appelle Poèmes juifs, qui inspire beaucoup Cohen. Et puis, c'est à l'époque aussi qu'il fait une deuxième rencontre déterminante, celle de Chaim Weizmann, qui sera le futur président d'Israël, et qui va lui confier différentes missions. Et
donc il est vraiment engagé, voilà, dans la démarche sioniste.
C'est
à l'époque.
Exactement. C'est son engagement sioniste qui commence à ce moment-là, qui va se concrétiser en 1925 avec la création d'une revue, qui s'appelle la Revue juive, dont il sera le directeur. lecteur.
Qui va lui permettre de rencontrer Einstein, de rencontrer Freud, mais voilà. C'est une revue qui ne durera malheureusement que quelques mois.
Voilà. L'idée était de réunir des intellectuels pour diffuser la pensée juive et favoriser le sionisme. Et puis ensuite, il sera représentant de Chaim Weizmann, qui est le directeur à l'époque de l'Organisation sioniste mondiale auprès de la France libre, auprès de De Gaulle, et il va essayer d'œuvrer à différents projets, la création d'une légion juive, la création d'un comité d'intellectuels qui ne seront pas vraiment couronnés de succès. Et puis il va commencer aussi dans ces années-là à travailler au Bureau international du travail et puis à travailler pour les réfugiés. Réfugiés alors d'abord à destination de la Palestine et puis après-guerre pour créer un passeport international pour les réfugiés qu'il appellera son plus beau livre. Il dira « J'en suis plus fier que de Belle du Seigneur ». Et puis ensuite, les engagements en fait politiques vont totalement cesser. Le sionisme, comme pour beaucoup d'intellectuels de l'époque, est une idée très importante, mais quelque chose qui, dans sa réalisation concrète, crée une sorte de tension avec l'idéal de la manière dont la façon idéale dont est conçu le judaïsme et la judaïté. Et on le voit bien dans Solal, le seul épisode sioniste de toute l'œuvre, c'est dans Solal où les valeureux vont en Palestine. C'est un désastre absolu. Mangeclou en a assez de voir des fils de Jacob, dit-il. Il sent qu'il va faire un pogrom, qu'il va devenir antisémite. Et en fait, c'est vraiment l'idée que la sédentarité, la transformation d'un État avec une armée va normaliser le peuple juif et le transformer en un peuple comme les autres et lui faire renoncer à cette éthique si singulière qui vient en grande partie de l'exil, qui crée cette sensibilité à l'autre.
Donc vous diriez qu'il n'est plus sioniste
C'est-à-dire qu'après
quoi, des années 50-60 ou...
Après-guerre, il ne se réengage plus du tout dans cette cause-là. Mmh. Non qu'il ne soutienne pas la création d'Israël, etc., mais il ne prend plus de position politique et il n'y a plus d'expression d'un sionisme dans l'œuvre.
Allez, on va continuer de parler de ça et de retracer à grands traits la biographie d'Albert Cohen avec vous, Maxime Decoux, juste après, en compagnie des revues, avec aujourd'hui Tiphaine Samoyau.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Tiphaine Samoyau de la revue en ligne En attendant Nado.fr. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
Un mot peut-être pour commencer sur Albert Cohen. C'est votre genre de littérature, ça ?
Non, pas vraiment. Enfin, je suis pas une grande lectrice d'Albert Cohen. Je n'avais par exemple pas lu son plus beau livre, à savoir ce passeport international pour les réfugiés.
Ah, ouais, ça, il va falloir le faire.
Voilà, et tout ce que vous dites, Maxime Decoux, me passionne. Je trouve que c'est une personnalité très complexe et c'est très intéressant d'en entendre parler comme ça. Bon, mais moi, la lecture de Belle du Seigneur, à l'époque où c'est
paru... Peut-être pas identifié à Ariane ?
Non. Enfin, je l'ai pas lu à l'époque où c'est paru, bien sûr. Mais enfin, de penser que c'était paru en 68, ça m'a fait un peu l'effet de la manifestation de soutien à De Gaulle après les événements de mai sur les Champs-Élysées, c'est-à-dire quelque chose de rassurant. Ah oui, la littérature, ça peut être encore comme ça. Quand on a Beckett, Duras et les autres, de se dire on peut encore raconter des belles histoires d'amour et des grandes sagas familiales. Et donc, j'étais un peu réfractaire, en fait, à cette littérature au moment où je l'ai lue. Mmh. Bon, après, je vois bien que j'ai encore du travail à faire pour le restaurer dans ma propre... Dans une estime qui devrait être la sienne. Enfin, en tout cas, tout ce que vous racontez donne envie de cela.
Ce qui n'est pas le cas de Kafka, qui est très haut dans votre estime, j'en suis sûr.
Oui, mais qui n'était pas dans celle d'Albert Cohen, parce qu'il y a des phrases d'Ariane très hostiles à Kafka dans Belle du Seigneur, qui apparaît comme l'auteur à la mode, qu'il fait bon d'apprécier, mais dont elle dit 30 pages de lui suffisent. Et elle qualifie même cette passion des intellectuels pour Kafka de terrorisme ou de terreur, je ne sais plus ce qu'elle dit. Donc, c'est quand même très, très violent. Donc oui, en effet, moi je...
C'est vraiment la guerre de tranchées. Vous avez choisi votre camp, Tiphaine, justement, dans En attendant Nado, puisqu'il est question, dans un article, de la nouvelle traduction, évidemment, dont on a parlé ici, en Pléiade, des œuvres complètes de Kafka.
Oui, oui, vous avez consacré une semaine entière. Et Jean-Pierre Lefebvre, donc nous l'avons interviewé comme beaucoup de personnes, mais on a eu la particularité de faire parler ensemble deux traducteurs de Kafka. Donc l'un, Georges-Arthur Goldschmidt, qui l'a traduit dans les années 80 en se fondant sur une certaine lecture des manuscrits, et puis lui, Jean-Pierre Lefebvre, qui le traduit maintenant, et sur leurs deux regards contrastés. Avec leur propre expérience aussi, donc Georges-Arthur Goldschmidt qui voit dans Kafka la réponse à son sentiment d'être un survivant abusif, puisque voilà, il a été sauvé de l'extermination alors que sa famille ne l'a pas été. Et Jean-Pierre Lefebvre qui le voit depuis un tout autre point de vue, qui explique qu'il n'était pas un immense lecteur de Kafka, mais qui essaye de demander, et je crois que c'est vraiment, ça importe beaucoup pour faire des nouvelles traductions, c'est-à-dire qu'il essaye de demander est-ce qu'il a tellement incarné le XXe siècle, Kafka, qu'est-ce qu'il peut encore nous dire aujourd'hui, quel avenir il a. Et il s'est posé la question avec une telle sincérité que je trouve ses réponses très fortes, hein, mm-hmm. parce qu'il ne répond pas simplement une grande œuvre a toujours à nous dire. Non, il essaye de dire...
Alors qu'est-ce qu'il peut nous apporter en deux mots ?
Que précisément, il éduque à l'attention. Que c'est quelqu'un qui éduque à une attention très très fine des événements, des choses, des petites choses. Et que cette éducation à l'attention, elle est particulièrement importante dans un moment où tout nous arrive un peu sans qu'on s'en rende compte. Hein. On est pris dans une masse de choses qui fait qu'on est un petit peu passif ou méconnaissant des événements. Et je pense que c'est plus que la vigilance, cette question de l'attention... me paraît forte.
Mmh. C'est un mot en effet qui revient beaucoup, notamment au sujet des réseaux sociaux, oui. Qui nous déporteraient oui. de toute forme d'attention. Faut-il être attentif pour lire Les Sorcières de Mona Chollet, dont vous nous parlez aussi aujourd'hui, Tiphaine Samoyo?
Oui, donc on a mis aussi en une ce livre de Mona Chollet, donc qui ne parle pas des sorcières qu'on brûlait au Moyen-Âge, mais de celles qu'on brûle encore aujourd'hui, plus métaphoriquement, dans une société comme la nôtre. Qui évidemment a fait une place importante aux femmes, on le dit souvent, mais néanmoins qui continue par exemple à très mal supporter leur vieillissement ou bon, des choses très très subtiles que met en évidence cette analyse de la sorcellerie contemporaine. En s'appuyant aussi sur tous les mouvements de revendication féministe qui ont endossé volontairement cette figure pour faire des choix ou revendiquer des opinions ou des prises de position qui ne correspondaient pas à ce que leur assignait la société. Mm-hmm. Par exemple, toutes les femmes qui revendiquent le fait de ne pas avoir d'enfants et la manière dont elles sont vues de manière très négative par notre société. Donc c'est un texte aussi très stimulant.
Et puis sans transition aucune, c'est Spirou qui a 80 ans.
Oui, pour montrer qu'on n'est pas simplement dans des choses seulement sérieuses, même si c'est une histoire sérieuse. Hein, donc cette histoire de Spirou, des aventures de Spirou, que retrace dans deux volumes Christelle et Bertrand Pissivy-Hiverneau. Et surtout, c'est une histoire très amusante parce que c'est le cas d'un personnage qui n'est pas la propriété de ses auteurs ou dessinateurs, mais la propriété d'un éditeur, Dupuis, qui a confié à un certain nombre d'auteurs et de dessinateurs la réalisation de ses aventures. Donc c'est vraiment toute une histoire éditoriale, toute une histoire artistique qui couvre, elle aussi, ou qui rencontre l'histoire du XXe siècle. Et donc l'article d'Olivier Roche hein, nous précise comment cet anniversaire a été fêté et qu'est-ce qu'on peut lire dans cet anniversaire. Voilà,
merci beaucoup Tiphaine Samoyo. Je conseille vivement à nos auditeurs qui ne l'auraient pas déjà fait de se rendre sur le site enattendantnado.fr. À très bientôt. La Compagnie des auteurs. Merci de nous écouter au premier jour d'une série consacrée à l'auteur de Belle du Seigneur, Albert Cohen, dont Maxime Decoux nous présente aujourd'hui les grandes lignes de la biographie et de la personnalité. Personnalité qu'évoque à présent Claude Lanzmann dans une brève archive de 1969.
Oui, il y a des guerriers. Ça n'est pas un homme doux, Cohen.
Non, il ne donne pas du tout, d'ailleurs. On n'a pas l'impression d'un homme
c'est
doux.
C'est un homme, si vous voulez, il y a deux choses en lui... La bonté du cœur et la méchanceté du regard. À savoir qu'il a un regard effectivement très très aigu, qui ne laisse rien passer. Mais il a une bonté en même temps très très profonde, parce que, disons que la fragilité de l'homme et son caractère mortel, enfin ce sont ses étalons, enfin il mesure tout à cela. Enfin.
Claude Lanzmann, Maxime Decoux, c'est notamment l'auteur du film Shoah. La Shoah, en a-t-il parlé précisément dans ses livres? Sans doute pas. Ailleurs, un petit peu peut-être, ou en tous les cas évoqué?
Alors, Cohen en parle assez peu, pour plusieurs raisons. Alors, il y a dans les œuvres, c'est présent, mais sous forme de mentions assez rapides. La raison principale étant que l'œuvre est conçue autour du personnage de Solal, à partir du premier roman, Solal, qui paraît en 1930. Et tous les romans qui suivent, donc quatre romans, sont la suite des aventures de ce personnage et se déroulent toutes ces aventures se déroulent avant-guerre, malgré les dates de publication. Manche-Clou est publié
C'est le fameux cycle dont on parlera précisément demain.
Manche-Clou est publié en 38, Belle du Seigneur en 68 et Les Valeureux en 69. Ce qui fait que Cohen, après-guerre, n'a pas voulu détruire l'unité de son œuvre, d'autant plus que Manche-Clou se termine par ce qui correspond aux premières pages de Belle du Seigneur. Et il faut attendre 30 ans pour avoir la suite de Manche-Clou. Il a voulu conserver véritablement cette unité chronologique, et donc il ne pouvait pas modifier l'architecture de l'œuvre pour faire entrer la Shoah. Néanmoins, elle apparaît sous forme de mentions brèves, de prémonitions.
Il aurait pu écrire un autre livre aussi.
Mais c'est en même temps, il a quand même mis plus de 30 ans à écrire Belle du Seigneur. Donc, il fallait trouver aussi du temps. Il y a eu 10 000 pages décrites pour écrire les 1000 pages de Belle du Seigneur. Mmh. Et de ce fait, on a simplement quelques mentions, comme des prophéties, comme des prises, notamment dans Les Valeureux aussi, rupture de la trame narrative et prise de parole du narrateur qui, sous les traits de l'auteur, qui parle d'un seul coup des membres de sa famille qu'il a perdu dans les camps. Donc c'est très, voilà, c'est sous forme assez rapide, mais ça revient, et ce qui remplace en fait aussi beaucoup ces évocations, c'est plutôt des grandes litanies des persécutions des Juifs, donc notamment dans la parole de Solal, avec donc des pages et des pages sans ponctuation qui vont retracer en fait les différentes persécutions depuis le Moyen-Âge, en énumérant les villes notamment où les Juifs ont été persécutés, les différents stigmates qu'ils ont portés comme la rouelle, le chapeau, etc. et qui semblent pouvoir se prolonger jusqu'au présent, même si les camps n'apparaissent pas. On voit comment tous ces épisodes portent en eux cette image en fait.
Alors vous dites que c'est tout de même une écriture de la mémoire, oui. Et c'est en cela que de manière un peu médiatée, comme vous de l'expliquer, ce traumatisme-là, il est présent quand même.
Tout à fait, oui. Il y a une sorte de mémoire du peuple juif qui est prise en charge, presque une mémoire peuple qui apparaît régulièrement dans ce genre de grands passages. Et Solal, lorsqu'il se tourne, parce que Solal oscille entre le rejet des Juifs et l'amour pour ces Juifs, notamment à travers les Valeureux, qu'il va à ses cousins de Céphalonie, hein, qui sont très particuliers, très exubérants, encombrants. Donc il les fait venir à lui, il les rejette. Et lorsque, par moments, il retourne vers le judaïsme, notamment dans Solal, il y a un épisode où il fête, c'est la fête de Pâques qui est fêtée, et Solal revêt certains signes de la religion juive, à savoir les phylactères et le châle de prière, et phylactères qui contiennent différents passages, notamment le passage du Deutéronome, le Shema Israël, hein, qui est vraiment, et puis un passage de l'Exode sur la sortie d'Égypte. Donc c'est vraiment la mémoire de ce peuple persécuté, de sa libération et des différentes persécutions qui s'origine dans la Bible et qui éclaire le présent.
Alors pour revenir à la biographie, mais c'est vrai que vous avez tout repensé aussi en fonction de cette thématique du rapport au judaïsme. Que faisait-il pendant la guerre? Il était à Londres, dans quelles conditions?
Tout à fait. Alors Albert Cohen donc part à Londres Et les choses sont un petit peu compliquées. Chaim Weizmann le charge d'être son représentant auprès de la France libre.
Il rencontre De Gaulle en 40.
Voilà, il va rencontrer De Gaulle pour les différents projets, notamment la question de la Légion juive qu'il voulait créer, la question d'un comité d'intellectuels, etc. Mais les relations sont un petit peu compliquées. De toute façon, on n'octroie pas véritablement de place à Albert Cohen, qui va en fait surtout écrire dans la France libre plusieurs textes, alors des textes engagés sur la guerre, salut à la Russie, Churchill d'Angleterre,
Ce sont des textes que vous qualifiez de littéraires, ils font partie de l'œuvre pour vous ?
Oui, c'est des textes que Cohen n'a pas véritablement repris, alors sauf certains passages de Churchill d'Angleterre qu'il replace dans Belle du Seigneur presque textuellement. Ce sont vraiment des textes, c'est pas du tout de la propagande dans le sens où on a une écriture extrêmement littéraire, une écriture du souffle épique avec beaucoup très mythologique. Hein, les pays sont personnifiés, la Russie, les représentants de ces pays aussi, Staline est glorifié. Parce que bon, c'est un symbole de la résistance évidemment au nazisme. Le nazisme, Hitler, on a tout un bestiaire qui est mis en place avec les bottes, les canines qui sortent de la forêt, et on a vraiment une lutte manichéenne qui est décrite avec une écriture extrêmement excessive, beaucoup de surcharge, comme souvent chez Cohen, mais peut-être plus encore dans ces textes-là. Et en même temps, une grande difficulté, Cohen met en scène sa difficulté à croire à cette écriture engagée. Régulièrement, il s'arrête, il s'interrompt, il dit qu'il est obligé de retourner sa plume contre lui pour se forcer à écrire, parce qu'il désavoue cette écriture, il dit que la trompette ne sied pas à son genre de beauté, et il parle plusieurs fois de l'imbécilité de cette écriture, de son inutilité, alors qu'il a envie d'écrire tout à fait autre chose. Et il y a cette lutte qui se met en place, qui montre bien que l'engagement est une question qui va demeurer complexe pour lui. Et d'ailleurs, vers la fin de sa vie, hein, dans un entretien, il dira que l'écrivain engagé est une sorte de moucheron qui essaye de basculer une montagne, et que c'est un athlète de l'inutile pensé et poussé. Et on voit vraiment une sorte de désillusion vis-à-vis des possibilités qu'aurait un écrivain d'agir sur l'histoire.
Alors on n'a pas parlé tout de même des nombreuses femmes d'Albert Cohen. Il y en a beaucoup, mais c'est aussi parce que il y en a beaucoup qui malheureusement disparaissent, oui. et meurent très jeunes.
Tout à fait, oui. Sa première épouse, Elisabeth, qui est une épouse qui est donc d'origine suisse et qui est protestante, décède dans des conditions assez tragiques.
À 29 ans.
Voilà. Alors que donc peu de temps après le mariage. Et c'est quelqu'un qui va vraiment le marquer. Quand les lettres qu'on peut lire, hein, qu'ils se sont échangées, sont vraiment des lettres d'amour passionné, dans lesquelles on retrouve quelque chose qui va se retrouver dans la parole des amants, dans les romans, entre Solal et ses différentes conquêtes, puisque donc Solal aura lui aussi plusieurs femmes aimées, Ariane étant la dernière d'entre elles. Et puis on retrouve déjà dans cette relation avec cette première épouse cette manière que cette épouse avait de le considérer comme, de diviniser son mari pratiquement, de le considérer comme un messie.
Elle un peu comme
également.
Sa mère le divinisait lui-même, sans faire de psychologie.
Elle le considère presque comme un messie, elle l'appelle le venu, etc. Et on a bien cette attente un peu messianique dans la passion amoureuse entre Ariane, Solal, et aussi avec ses conquêtes précédentes dans le roman Solal. Et la grande spécificité en fait des différentes épouses, que le rôle dans l'écriture, c'est que Cohen va pratiquement pour toutes leur dicter ces textes. Et donc,
quels sont les premiers lecteurs, les premiers auditeurs?
Tout à fait. Il semble, alors il est difficile d'être certain de quel est effectivement le rôle de cette dictée à la femme aimée, mais il y a des passages où, notamment dans les Valeureux ou dans Mangeclou, où c'est évoqué cette situation d'écriture, et on a le sentiment que cette écriture oralisé, souvent adressé. Le narrateur prend parfois la parole, alors qu'il est absent hein, du texte, il prend parfois la parole, il s'adresse à un personnage. Cette écriture qui multiplie les adresses doit quelque chose à cette situation très singulière. Il va dicter aussi à sa fille, et puis à une secrétaire aussi.
Hein. Donc sa fille qu'il a précisément avec cette première femme, oui. Elisabeth Brochet, c'est en 1921 qu'elle naît, elle s'appelle Myriam. Elle va l'accompagner toute sa vie, puisque au fond la dernière femme, donc il y en aura beaucoup entre les deux, mais la dernière femme, Bella, est une amie de sa fille.
Voilà, qui a pratiquement l'âge de sa fille dont je salue la mémoire, qui vient de décéder il y a quelques semaines, qui est donc effectivement, c'est sa première épouse juive. Sa dernière femme, les autres n'étaient pas juives et Solal n'a jamais de relation avec avec des femmes juives. Hein. Il choisit toujours des occidentales, alors même que il ne cesse de faire l'éloge du mariage avec une juive qui est décrite comme nécessairement une femme laide, qui va permettre de réaliser un petit peu le fantasme de Solal qui serait d'être aimé pour autre chose que pour sa grande beauté, ce qui explique d'ailleurs cette scène inaugurale dans Belle du Seigneur où il va séduire Aria déguisé en vieux juif errant.
Quelle tragédie que d'être trop beau.
Et exactement, voilà. Ben oui, parce qu'il dit très régulièrement qu'il aimerait être aimé non pas pour ses centimètres ou pour la présence de ses 32 dents, mais qu'il aimerait pouvoir être aimé avec des dents qui manquent et des centimètres en moins. Donc un amour en fait sur le modèle maternel ou sur le modèle effectivement de l'amour dans le mariage entre son père et sa mère éventuellement.
Alors il nous reste assez peu de temps pour évoquer tout le reste de la vie d'Albert Cohen, mais on peut peut-être dire qu'il a fait beaucoup d'aller-retour entre Paris et la Suisse, que finalement il était davantage suisse au fond que français, de par sa nationalité, mais aussi de par son amour finalement de la Suisse, qu'il considérait comme un pays finalement de calme et un pays qui lui semblait très agréable. Et puis il faut dire aussi quand même que ça a été une immense consécration en 1968, que la sortie de Belle du Seigneur, sa vie a vraisemblablement beaucoup changé, Maxime Decoux.
Oui, c'est-à-dire que effectivement la carrière d'Albert Cohen est une carrière relativement étrange, puisqu'il commence par publier, être repéré assez vite, pouvoir publier chez Gallimard en 1930. Il signe un contrat avec Gallimard pour plusieurs romans. Finalement, il va publier assez peu. Manche-Clou en 1938, apparemment sur la pression de Gallimard qui réclamait un texte pour la rente qu'il lui versait régulièrement. Et donc, Cohen prépare déjà Belle du Seigneur, en fait, et il arrache les chapitres. Il extrait les chapitres qui sont consacrés au personnage des Valeureux, sauf la fin de Manche-Clou qui amène Solal et Ariane, mais qui donne cette structure très singulière au roman, qui s'achève sur le début d'un autre en fait. Et puis ensuite, quasiment rien jusqu'en 1968, à part Le Livre de ma mère en 54, qui est quand même un grand succès, mais Le Livre de ma mère qui a été écrit comme aux Vous Frères Humains pendant la guerre et qui est publié aussi sous forme de texte dans une revue et qui est simplement repris dans ces années-là. Et en fait, Cohen passe après-guerre quasiment tout son temps retiré à écrire en Suisse, seul, l'immense chantier qu'est Belle du Seigneur, pour lequel il écrit des versions et des versions, et il connaît le succès très tardivement, en 1968, assurément, peu de gens se souviennent de Solal en 1930, de Manche-Clou en 1938. Et là, c'est un succès effectivement immense, alors qui aussi repose sur une réception qui est biaisée, puisque le roman n'était pas du tout prévu sous cette forme-là, puisqu'en fait, Cohen propose à Gallimard un manuscrit qui comprend presque 2000 pages et qui comprend Belle du Seigneur et Les Valeureux. Et Gallimard lui dit que c'est impubliable et il doit retirer à nouveau une grande partie des chapitres qui concernent Les Valeureux, ce qui fait qu'il retire à peu près la même chose qu'en 1938, ce qui fait que Les Valeureux ressemblent beaucoup à Manche-Clou.
D'où donc, le cycle qui reparaît dans son entier quarto. Nous en parlerons également demain.
Et là, c'est un immense succès. Effectivement, là, il va recevoir beaucoup de journalistes, on va l'entendre dans la presse. Mais c'est déjà un homme âgé.
Alors, c'est un homme âgé, puis c'est un homme qui souffre un peu de dépression nerveuse. En 1978, on sait qu'il est anorexique. C'est une fin de vie aussi, malgré justement cette consécration qui est un peu en demi-teinte, qui est même un petit peu triste. Il y a un côté misanthrope également chez Albert Cohen, Maxime Decoux.
Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il a de toute façon toujours un peu cultivé. C'est quelqu'un qui appréciait effectivement les honneurs, mais qui avait un regard malgré tout. On le voit bien. De toute façon, il y a beaucoup d'humour et de satire dans les dans ses textes. Il avait un regard très critique sur et il a fréquenté les instances internationales pendant toute la période avant, autour de la guerre.
Même s'il a pris beaucoup de congés finalement pour pouvoir se consacrer à ça.
Mais c'est vrai que l'analyse qu'il propose de la SDN, à la, il n'a jamais travaillé à la SDN, hein, mais l'analyse qu'il propose de la SDN, qui est quand même un organisme international qui a des proximités avec ce qu'il a connu au Bureau international du travail, il a fréquenté tous ces fonctionnaires internationaux, c'est quand même d'une lucidité incroyable et on sent bien que...
C'est le machin vraiment, c'est la description du machin.
C'est tout à fait, et de cette grosse machine qui ne produit rien, où le but est de ne prendre aucune décision, de ne servir à rien, d'être inutile, comme le disent différents fonctionnaires, et le but est uniquement d'obtenir des promotions.
Et il meurt donc le 17 octobre 1981, après avoir fait une chute dans son appartement. Et il est enterré au cimetière israélite de Verrier, près de Genève. Merci beaucoup, Maxime Decoux. Je rappelle que votre ouvrage Albert Cohen, Les fictions de la judéité, est disponible aux éditions Garnier. Vous avez également publié ces jours-ci, le 18 octobre dernier, un essai intitulé Pouvoir de l'imposture, c'est aux éditions de Minuit. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Malonda, Stéphanie Vélin et Clément Daté. Demain, on continue de parler d'Albert Cohen et du cycle Solal des Solals. Ce sera avec Philippe Zard, qui est l'artisan de leur reparution dans la collection Quarto chez Gallimard. Et puis, dans les Nuits de France Culture, toute la semaine, vous pourrez réentendre une série d'émissions sur Albert Cohen par Jean Couturier et Françoise Esteb. C'est à partir de minuit. Tout de suite, la poésie. Jacques Bonnafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Paul Kenneck est paru chez Obsidian. Est apparu? Apparu? Bon, nous en discuterons plus tard. Paul Kenneck, encore un qui nous pose la question d'une disparition. Où c'est quel poème? Or la rime et les roulements de batterie de la métrique à l'ancienne. Et lorsqu'il en compose, petit verset, petit paquet de pensées, chansons, n'excédant jamais la page, il leur donne l'allure d'un journal vagabond, mais établi suivant un calibre. On se souvient de Bernard Collin au titre frappeur, 22 lignes par jour, et il sort sa pensée. Paul Kenneck n'est pas loin, des proses qui manquent d'élévation, titre-t-il, et, paradoxe, on ne peut s'empêcher de penser qu'il ne manque pas d'élévation. Des poèmes. Doryphore et Coccinelle, c'est le premier poème des préambules. Pas la soldatesque prussienne ou bavaroise, mais le Leptinotarsa Desemlineata, qui en portant la lance, dévore en 24 heures un champ de patates. Les Québécois, dans leur sagesse, se passent de noms grecs ou latins et nomment ce phytophage américain la bibita papate. Sa ressemblance avec la petite Volkswagen est frappante, d'autant que l'insecte porte un V sur le capot, et cela est curieux car la coccinelle fut conçue à l'instigation d'Adolf Hitler. Pour en revenir à l'invasion des doryphores vers 1950, quand on s'aventure dans le champ de derrière, chaque pas réduit en bouillie les larves d'un beau rouge cramoisi et les adultes brun roux en gilet rayé. Le temps est beau, on voit les clochers d'Anvec et Rumangol, et moi j'écrase les doryphores à deux pieds avec le sentiment exaltant d'écraser l'infâme. Autre préambule, deux pages plus loin, j'aime les préambules qui ne signifient pas grand-chose. Il prépare. L'attente du bot, avant de prendre son élan, posait calmement le cadre de sa narration. Ça commençait généralement ainsi. « Les gens sont méchants. Oui, les gens sont méchants. Une phrase courte, bien articulée, répétée avec conviction. Les gens sont méchants. Et ce qui suivait apportait les preuves d'une méchanceté vérifiable. J'avoue que l'histoire elle-même offrait moins d'intérêt que la phrase inaugurale. Inévitablement, elle nous faisait entrer dans un monde connu où les voisins s'épient, se jalousent, et quand le voisin est une voisine, femme seule de surcroît, tous les coups sont permis. Paul Keneck, des proses qui manquent d'élévation, paru chez Obsidian. Obsidienne. Non, Obsidian, c'est la maison d'édition où a été publié ce regretté Franck Venaille. Cette inconcevable végétation s'éclairait d'elle-même, et ça c'est une citation de Huysmans, cette inconcevable végétation s'éclairait d'elle-même de tous côtés, des obsidianes et des pierres spéculaires incrustées dans des pilastres, réfractées en les dispersant, les lueurs des pierreries qui, réverbéraient en même temps par les dalles de porphyre, semaient le pavé d'une ondée d'étoiles. Huysmans en rade. Voilà. État d'âme. Un état d'âme n'a jamais prouvé l'existence de l'âme. Je lui préfère la présence d'esprit. Paul Keneck.
Merci Jacques Bonafé, vous lisiez donc des extraits de textes de Paul Keneck.